Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de partir en vadrouille avec vous. On va s'inviter chez les gens ailleurs, entendre ce qui les préoccupe, ce qui les fait se lever, manifester parfois, avec une première étape à Istanbul. La capitale économique et culturelle de la Turquie revote aujourd'hui pour se choisir un maire, car la première élection avait été invalidée à la demande du parti du président. Il avait perdu de justesse et c'est tout un pays et même au-delà qui se passionne pour cette élection municipale qui cristallise tant d'enjeux de pouvoir. Nous irons ensuite à Hong Kong rencontrer ces jeunes qui depuis deux semaines se rebiffent contre la mainmise de Pékin sur le pouvoir. Ils défendent leur part de liberté et d'indépendance de la justice.
Hong Kong est supposé être un endroit où j'ai le droit de dire ce que je veux. Mais je dois porter un masque pour me protéger et ne pas être arrêté par la police.
Nous irons aussi dans l'extrême sud de l'Italie, plus loin que la Sicile et Malte, en pleine mer Méditerranée, sur l'île de Lampedusa. Les migrants y arrivent bien moins nombreux, mais il y a aussi bien moins de bateaux pour les repérer et leur éviter le naufrage. Alors les pilotes volontaires survolent la mer en la scrutant.
J'ai quelque chose à environ 2 heures. Ok, il faut qu'on y retourne. Un bateau pneumatique. J'ai un visuel, c'est un bateau pneumatique bleu.
On sera dans le petit colibri de ces pilotes volontaires, toujours mobilisés pour aider malgré l'empreinte populiste qui a façonné la politique migratoire de l'Union européenne. Et puis nous irons au Japon, ébranlés par un verdict qui a choqué l'opinion publique. 2 femmes ont été déboutées car elles ont porté plainte trop tard contre l'État, cet État japonais qui pendant près de 50 ans a stérilisé et avorté de force des milliers de personnes handicapées. C'était le procès du siècle, le tout premier procès sur le plus grand scandale éthique et sanitaire de l'histoire du pays. Pas de littérature ce dimanche, mais un film sur un immense danseur russe, Nouriev. C'est Mathieu Charrier qui viendra nous en parler. Quant à Joseph, c'était cette semaine son jour favori. Le jour le plus long, le jour du solstice d'été. Et ça l'inspire, Joseph. Les carnets du monde sont ouverts et on file à Istanbul, où c'est grand jour de vote. C'est un scrutin qui dépasse largement le cadre de la ville. Derrière le vote des Stambouliotes pour leur future maire se joue une bataille idéologique entre le président turc et l'opposition, car l'élection a déjà eu lieu fin mars, remportée par le candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, d'une très courte tête, 13 000 voix dans une ville de 16 millions d'habitants. Mais après un recours du parti islamo-conservateur du président, l'AKP, l'élection a été annulée et reprogrammée. On peut se présenter face à l'AKP, mais il est interdit de gagner, ironise l'opposition, qui s'est immédiatement remise en ordre de bataille. Dernier jour de campagne dans les rues d'Istanbul, nous nous glissons dans les pas de Guillaume Perrier. Reportage.
Un vent de changement souffle depuis 2 mois sur le port de Kadıköy. Au milieu des flots de passagers pressés qui embarquent ou qui débarquent du bateau pour traverser le détroit du Bosphore, on danse, on chante, on célèbre le nouvel espoir de l'opposition, Ekrem İmamoğlu. Kadıköy est un fief de l'opposition au président Erdogan et en général, elle y remporte autour de 75% des voix aux élections. Alors cette fois, tout le monde semble derrière İmamoğlu.
İmamoğlu a déjà gagné. Nous avons déjà un maire, c'est lui. Mais une décision antidémocratique, injuste, a été prononcée. Donc nous attendons qu'İmamoğlu l'emporte une nouvelle fois. C'est quelqu'un qui soutient vraiment les libertés, la démocratie et la justice. Ce n'est pas seulement une élection pour la municipalité, c'est une élection pour la démocratie et pour changer de régime. Parce que nous sommes vraiment face à un vrai dictateur. Un président de la République doit être impartial, mais lui, il ne prend que des décisions partisanes. Il y a une répression, une injustice. Il n'y a pas de démocratie. La justice est au service du parti au pouvoir. Il n'y a plus d'état de droit. Il y a un besoin urgent de démocratie et de justice.
Kadıköy est un quartier historique situé sur la rive asiatique du Bosphore. C'est le premier quartier de la ville, fondé par des Grecs il y a 2700 ans. Un quartier laïque, moderne, avec beaucoup de bars et de restaurants. Dans les ruelles du vieux marché, on boit, pas toujours avec modération. On chante, c'est devenu le refuge des artistes, des intellectuels, des fêtards qui ont fui le quartier de Taksim. Sa population votera massivement pour İmamoğlu. C'est le cas par exemple d'İskender Giray, un sculpteur, dont les œuvres très politiques ornent les rues de Kadıköy. Une installation rend hommage à un adolescent tué pendant les manifestations de Gezi en 2013. Une autre célèbre les 300 victimes de la catastrophe minière de Soma en 2014.
Of course, I'm saying her şey çok güzel olacak.
Bien sûr, je dis tout va très bien aller. Bien sûr que je soutiens Ekrem İmamoğlu.
Comme beaucoup, il a l'espoir que les choses changent enfin, même si la prudence reste de mise.
C'est incompréhensible cette élection. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est comme si on faisait un jeu avec un enfant qui refuse d'arrêter de jouer et qui veut recommencer le jeu. Voilà la situation. Et bien sûr qu'on a peur qu'Erdogan gagne de nouveau. S'ils ont pu imposer ce nouveau vote, malgré les manipulations évidentes, alors nous craignons vraiment ce qui peut arriver. Jusqu'où peuvent-ils aller? Mais notre espoir est solide. Dimanche, tout le monde ira voter dans le calme, sereinement. Et Ekrem İmamoğlu l'emportera. Il sera élu et commencera à travailler le lendemain. Il y a un besoin de stabilité économique, politique et pour faire baisser les tensions sociales. Notre état d'esprit, c'est la résistance et ce sera toujours comme ça.
Kadıköy est un quartier de résistance à l'autoritarisme, un quartier de mobilisation. Au pied du grand stade de football du club de Fenerbahçe se trouve par exemple le Yoğurtçu Park, le parc des marchands de yaourts. Aujourd'hui, on n'y trouve plus trop de yaourts, mais il est souvent envahi par les manifestants et par la police. C'est le centre des mobilisations citoyennes et populaires, notamment depuis les manifestations de Gezi en 2013. Ce parc est devenu un symbole des luttes pacifiques contre le pouvoir. Mercredi, c'était un rassemblement de supporters d'Ekrem İmamoğlu, originaire comme lui de la région de la mer Noire. Tahsin Ocaklı est président d'une amicale culturelle.
Parklar. Oui, les parcs sont des lieux investis par des gens qui réclament la démocratie. On y tient des forums populaires. C'est pour cela que ce sont des endroits très importants. C'est une bonne chose que les municipalités dirigées par l'opposition soutiennent cela. Les parcs ne sont pas seulement des lieux de repos, mais aussi des lieux de mobilisation, de revendication. Si les élections ne sont pas régulières dimanche, bien sûr, ce parc va se remplir. Nous ferons entendre notre désir de démocratie au monde entier. Plus personne ne peut comprendre Erdogan.
Mais il ne suffit pas de conquérir un quartier pour être couronné roi. Istanbul est une mégapole de 16 millions d'habitants, 39 mairies d'arrondissement étalées sur deux continents et plus de 100 km d'est en ouest. La force d'İmamoğlu, c'est qu'il a réussi à conquérir aussi les banlieues populaires, conservatrices, des quartiers aux antipodes de celui de Kadıköy. De l'autre côté du Bosphore, sur la rive européenne, nous sommes à Otosanayı, le quartier des ateliers automobiles. Au milieu des garages, s'est installé Mediascope, un média indépendant vers lequel se tournent de plus en plus de Turcs. İrfan Bozan, rédacteur en chef adjoint, a suivi le maire déchu d'Istanbul.
Il dialogue avec les gens, un par un. Il utilise un discours qu'aucun dirigeant du parti n'a utilisé avant lui. Sa première phrase, c'est toujours « Accordez-nous vos prières ». Et la deuxième, « Accordez-nous votre voix ». C'était un langage totalement nouveau qu'aucun politicien n'avait utilisé avant lui. Si İmamoğlu gagne, et même s'il ne vote pas pour lui, les conservateurs ressentent une proximité avec lui. Il ne peut pas leur causer de tort. Il a réussi à faire passer cela. Par ailleurs, il y avait déjà un électorat d'opposition convaincu qui s'est construit sur le sentiment anti-AKP. Et puis le discours anti-kurde du pouvoir contre le parti kurde HDP a beaucoup servi à İmamoğlu.
C'est parce qu'il incarne les espoirs de changement de la société turque dans toute sa diversité qu'Ekrem İmamoğlu est aujourd'hui en position de force et que l'ère Erdogan semble plus que jamais touchée à sa fin.
Voilà, reportage à Istanbul de Guillaume Perrier que l'on retrouve tout de suite. Bonjour Guillaume, vous êtes en ligne avec nous.
Bonjour Sophie.
L'ère Erdogan semble touchée à sa fin, dites-vous à la fin de votre reportage, ce qui suggère la portée démesurée de cette élection qui se tient aujourd'hui. Pourquoi Istanbul est-elle à ce point au carrefour de ce qui sera peut-être un tournant pour la Turquie ?
Alors c'est effectivement bien plus qu'une élection locale, la portée de ce vote est nationale, voire même internationale, car Erdogan joue en partie son avenir politique. D'abord parce qu'Istanbul, c'est 16 millions d'habitants, un Turc sur 5, un tiers de la richesse du pays, Et si Istanbul bascule, ce seront les 5 plus grandes villes du pays qui seront désormais gérées par l'opposition. Ensuite, parce qu'Istanbul, c'est le socle du pouvoir d'Erdogan. Il a lui-même été élu maire il y a 25 ans, il n'a jamais lâché la gestion de la ville depuis. Il en a fait son tremplin, son laboratoire politique, le cœur de son réseau d'influence et aussi la source principale de son financement. Istanbul, c'est un peu sa caisse noire et les affaires de corruption pourraient rapidement le rattraper. Mmh. Enfin, dernière chose, c'est parce que si son candidat perdait, malgré l'annulation de la première élection, Erdogan serait dans une situation extrêmement difficile. Après 17 ans au sommet du pouvoir, une telle défaite serait un tournant majeur de l'ère Erdogan. Lui-même le sait très bien. En 1994, quand il avait été élu maire, il avait déclaré « Qui conquiert Istanbul, conquiert la Turquie ». Et cet adage risque de se retourner contre lui.
Le contexte national, Guillaume, c'est une économie en berne et une situation de plus en plus tendue pour le pouvoir, du coup.
Oui, l'économie, c'est le nerf de la guerre. Depuis 2002, c'est la raison principale pour laquelle les électeurs votent pour l'AKP. Et aujourd'hui, c'est aussi le motif de la désaffection. La monnaie a perdu 40% de sa valeur en 18 mois. Il y a 1,5 million de chômeurs en plus depuis l'an dernier. L'économie turque est vraiment au bord d'une crise majeure. Et c'est une crise qui est provoquée par les choix politiques du président Erdogan, notamment par ses alliances douteuses avec la Russie, en tournant le dos à ses alliés de l'OTAN et à l'Union européenne. Alors dans ce contexte, Erdogan n'a jamais cessé de raviver les tensions politiques, sociales, pour renforcer le nationalisme qui est au cœur de son électorat. Ça a souvent fonctionné, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus.
En quelques mots, on sait que c'est un régime très autoritaire. Est-ce qu'il y a un risque de fraude pour cette élection ou est-ce que ça va être réglo mais serré, j'ai envie de dire ?
Écoutez, la fraude a déjà eu lieu, puisque le pouvoir a décidé de refaire cette élection sous un prétexte juridique peu crédible. Mais on peut s'attendre à tout à partir de ce soir. En même temps, le vote sera très surveillé. Les Turcs sont attachés aux apparences de la démocratie, donc un bourrage d'urnes massif semble peu probable. Mais c'est sans doute dès demain que les choses sérieuses vont commencer. Erdogan n'a pas arrêté de traiter son adversaire de terroriste et tous les stratagèmes pourraient bien être utilisés pour contrecarrer l'action du nouveau maire.
Merci beaucoup pour ce décryptage, Guillaume, qui nous permet de comprendre l'enjeu énorme de ce scrutin municipal à Istanbul aujourd'hui. On suivra les résultats avec attention. Merci, à bientôt.
Merci Sophie, au revoir.
Europe 1.
À surveiller également, comme le lait sur le feu, le mécontentement qui gronde à Hong Kong. On va entendre ces jeunes qui refusent la mainmise de Pékin sur leur territoire. C'est là qu'on va dans un tout petit instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h sur Europe 1. Et c'est à Hong Kong que vous nous emmenez maintenant, Sophie Larmoyer. L'ancienne colonie britannique est en ébullition depuis quelques semaines.
Les manifestations dans les rues de Hong Kong ont commencé le 9 juin dernier et vont crescendo depuis. Raison de la mobilisation, ce projet de loi qui vise à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Or, Hong Kong, vous le savez, a un statut particulier depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine il y a plus de 20 ans. Statut régi par le principe « un pays, deux systèmes » qui garantit aux habitants des libertés inexistantes ailleurs en Chine. Ils sont donc descendus dans la rue, ont été réprimés par la police. Le projet de loi a été suspendu, mais le mécontentement ne faiblit pas face à l'ingérence grandissante de Pékin. Et en première ligne, ce sont les jeunes. Sébastien Lebelzik les a rencontrés cette semaine.
Chaque soir, la même routine pour Darcy Fang et ses amis. Cette jeune fille de 26 ans, étudiante en anthropologie, se rend sur une passerelle qui fait face au siège du gouvernement de Hong Kong. Elle porte un masque pour cacher son visage, comme la plupart des jeunes qui manifestent depuis le début du mouvement.
Hong Kong est supposé être un endroit où j'ai le droit de dire ce que je veux. Mais je dois porter un masque pour me protéger et ne pas être arrêté par la police.
Au début, Darcy est resté en retrait des manifestations, mais la mobilisation de plus en plus forte des jeunes hongkongais l'incite aujourd'hui à s'impliquer davantage.
Je me sens tellement coupable parce que je n'étais pas parmi ceux qui étaient en première ligne. Mais ils sont trop jeunes. Ces gens sont trop jeunes et ils sont restés en première ligne. Ils auraient dû être chez eux. Pourquoi est-ce qu'on doit se battre comme ça ? Pour notre futur ? Pour Hong Kong, pour la liberté de parole.
Les larmes aux yeux, elle s'inquiète surtout pour son avenir. Avec ses camarades d'université, ils ont installé un camp de base au pied d'un gratte-ciel où sont stockés des médicaments, de l'eau et des parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes de la police. Cashing, un étudiant de 23 ans, est chargé de la logistique.
On ne se connaissait pas avant. Je connaissais personne ici avant. Le plus jeune, il doit avoir 14 ans. D'autres ont 16 ans, 19 ans. Tout ce qu'on utilise ici a été donné par des gens. Il n'y a pas de dons des entreprises ou de grands groupes. Les gens donnent ce qu'ils veulent.
Et les étudiants ne sont pas seuls à faire le siège du gouvernement. Clarice Yang est une jeune élue locale démocrate. Elle a quitté son bureau du conseil municipal pour être tous les jours aux côtés des manifestants.
Nous sommes de plus en plus forts parce que depuis 5 ans, nous avons beaucoup souffert. Nous avons tellement de colère en nous, mais on ne sait pas ce qu'on peut faire. Mais même dans cette situation, on peut entendre les gens chanter. Et ça peut vraiment changer quelque chose.
Le syndicaliste Ming Lam représente, lui, une centaine d'organisations professionnelles indépendantes. Pour lui, Hong Kong doit garder son autonomie vis-à-vis de la Chine continentale.
En Chine, ils sont derrière les barreaux juste parce qu'ils se battent pour le respect du droit du travail. Ils sont des centaines comme ça. Alors nous ne voulons pas que ce genre de choses arrive à Hong Kong. C'est pour cela que nous devons nous dresser contre l'autoritarisme et nous opposer au gouvernement de Pékin. Leur dire que trop, c'est trop.
Peu à peu, le mouvement se structure. Il rassemble désormais une centaine d'organisations différentes, des groupes religieux, des syndicats, des partis démocrates et beaucoup d'étudiants. Une opposition de plus en plus forte qui demande aujourd'hui la démission de la chef de l'exécutif de Hong Kong.
Trop, c'est trop, dit la rue de Hong Kong à Pékin. C'était un reportage de Sébastien Lebelzig que l'on retrouve tout de suite en ligne avec nous. Bonjour Sébastien, ou bonsoir chez vous peut-être.
Oui, bonsoir Sophie.
La question qu'on se pose maintenant, c'est combien de temps ça va durer ce mouvement pacifique ?
Oui, chaque jour aussi, le Front pour les droits de l'homme qui rassemble une centaine d'organisations à l'origine de ce mouvement à Hong Kong décide si des rassemblements auront lieu, où et comment. On sait déjà par exemple qu'il est prévu le 1er juillet, qui est la date anniversaire de la rétrocession il y a 22 ans de Hong Kong à la Chine, qu'il est prévu ce jour-là une grande manifestation. Le gouvernement de Hong Kong pendant ce temps joue la montre, mais la question est surtout de savoir combien de temps la Chine, enfin la République populaire de Chine, va accepter un tel désordre à ses portes. Écoutez le professeur de sciences politiques Ivan Choi de l'université chinoise de Hong Kong.
La même situation va continuer encore et encore, surtout pour ces jeunes et les étudiants pendant l'été. Parce qu'ils sont en vacances, ils auront du temps pour sortir et organiser toutes sortes d'activités pour s'opposer aux nouvelles lois. Et donc, ça mettra le gouvernement dans une situation de plus en plus difficile. Vous savez, le sommet du G20 va bientôt se tenir. Et cela mettra le président chinois Xi Jinping dans une situation très embarrassante. Lors de sommets internationaux comme celui-là, où il doit également régler des questions aussi complexes que la guerre commerciale avec les États-Unis.
Alors justement, quelle est l'attitude de Pékin dans cette affaire, Sébastien ?
Eh bien, la Chine est très embarrassée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle ne peut pas tolérer très longtemps ce désordre à ses portes. Ça pourrait donner de mauvaises idées aux Chinois du continent. Vous savez qu'on vient juste de commémorer en Chine le 30e anniversaire du massacre de Tiananmen. Pékin fait donc pression sur la chef de l'exécutif Carrie Lam pour qu'elle règle le problème. Mais dans le même temps, la propagande chinoise accuse les États-Unis de manipuler les manifestants. C'est d'ailleurs ce que nous dit le professeur Liu Xiaokai. Il est conseiller du gouvernement de Hong Kong. Écoutez.
Hong Kong est maintenant devenu un champ de bataille entre les États-Unis et la Chine. Et c'est ça qui est dangereux à Hong Kong. Pékin est le maître de Hong Kong. Si on veut pouvoir continuer le principe, un pays, deux systèmes, avec un haut degré d'autonomie, alors nous avons besoin du plein soutien de Pékin et de sauvegarder ses intérêts et la sécurité nationale.
Ouais, un pays, deux systèmes, c'est justement cette semi-autonomie que les manifestants entendent défendre. Sébastien, on se souvient du précédent grand mouvement de contestation à Hong Kong. Hein, c'était en 2014, c'est le mouvement des parapluies qui réclamait l'instauration du suffrage universel et qui avait bloqué le centre financier pendant des semaines. Est-ce qu'on peut rapprocher les deux mouvements aujourd'hui ?
Oui, effectivement, c'est en quelque sorte en ce moment la prolongation de la révolution des parapluies qui, à l'époque, n'avait pas abouti. Plusieurs leaders ont été emprisonnés et cette fois, on peut dire que les manifestants qu'on voit dans les rues à Hong Kong sont d'une part plus nombreux et plus radicalisés aussi. On a vu des images de manifestants vêtus de noir et masqués, tenter de bloquer par exemple l'accès au quartier général de la police. Et on sent Hong Kong vraiment à fleur de peau. La situation est encore plus tendue, je dirais, qu'en 2014, même si les manifestants sont dans leur ensemble restés calmes pour l'instant. Ils attendent surtout une réponse concrète du gouvernement local et ils entendent également affirmer leur liberté d'expression.
Oui, on comprend que c'est le nerf de la guerre, hein, de toute cette histoire. Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir permis d'entendre ces jeunes qui sont d'ailleurs à l'unisson des milieux d'affaires à Hong Kong. Et c'est vraiment un tournant, hein, dans l'histoire de Hong Kong. Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt.
Oui, à bientôt. Bonsoir, Sophie.
Europe 1.
Changement d'ambiance. On fait ensemble un pas chassé, un saut de biche. Et on va rencontrer Nourieff au cinéma, bien sûr.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h23, place au cinéma avec vous Sophie Larmoyer et bien sûr Mathieu Charrier.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Ravi de votre visite dans les carnets cette semaine avec la danse à l'honneur aujourd'hui. Oui. On va danser au cinéma, Mathieu, puisqu'est sorti mercredi dernier un biopic, donc un film biographique. Oui. Consacré au danseur russe Rudolf Nouriev. D'abord, que raconte ce biopic ?
Alors, il nous plonge dans la période durant laquelle ce jeune danseur en fait, va basculer de l'URSS aux folles nuits parisiennes. Tout commence en 61, on est donc en pleine guerre froide, et au moment de quitter la France après une tournée parisienne du Kirov de Leningrad, dont il fait partie, pour retourner au pays, donc Nouriev fait défection, c'est-à-dire qu'on le voit sur le tarmac, il décide de rester. Il s'oppose aux membres du KGB en prononçant ces mots face aux Français : « Je voudrais rester dans votre pays ». Ça s'envenime un peu, mais il y a un officier français qui intervient et il parvient à rester. Le lendemain, la presse titre « Le grand saut vers la liberté », magnifique titre, ça c'est la scène connue entre guillemets. Mais le réalisateur lui va surtout chercher à s'intéresser à la personnalité de ce danseur, de ce petit garçon né dans une famille pauvre de Tatars musulmans et qui est devenu le danseur le plus célèbre au monde, que l'on connaît tous, on connaît tous ce nom Nouriev. On ne sait pas forcément exactement
Nouriev
toute sa vie.
Et Baryshnikov.
Voilà, c'est ça, mais c'est les noms qu'on a dans, dans l'imaginaire collectif. C'est Alors c'est vrai que quand il débarque à Paris, il découvre une forme d'ivresse, de liberté. Rapidement, il va rencontrer le danseur Pierre Lacote, qui est joué par Raphaël Personnas dans le film. Il sort aussi avec Clara Saint, qui est l'ex-fiancée d'un fils d'André Malraux. C'est Adèle Exarchopoulos, en rappelé d'Adèle, qui joue ce rôle. Ce film, c'est donc une ode à la liberté, résume Raphaël Personnas.
Je crois que c'est un immense artiste, et puis surtout qui a réussi à donner un peu corps à la danse masculine. C'est le premier qui a vu une utilité, ou en tout cas qui a vu quelque chose d'artistique, alors qu'avant, le danseur, on va dire, était là pour faire les portées, quoi, en clair. Et lui a amené cette dose d'artistique et de liberté aussi, et qui s'est retrouvé dans sa vie. C'est ça qui est assez beau dans cet épisode que raconte Ralph Fiennes dans le film, c'est de voir à quel point toute sa vie est en accord avec cette soif de liberté, avec son art. Et qu'il n'a pas voulu se laisser emprisonner par un régime qui est quand même, à l'époque, pas le plus sympathique, donc l'URSS. Et il est quand même accompagné en permanence du KGB. Il arrive à s'enfuir. Il y a une telle soif de liberté en lui. Et depuis la plus tendre enfance, qu'il a vraiment élevé la liberté comme un art, en fait. Et il l'a exprimé avec ce corps-là et avec une technique incroyable, d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans le film, je trouve, que c'est qu'on le voit vraiment au travail. On voit en permanence cet homme qui c'est pas juste un don qui est arrivé. On voit quelqu'un qui travaille en permanence. Et ça, Ralph Fiennes, je trouve, l'a extrêmement bien restitué.
C'est vrai que c'était un beau travail à Nouriev. Le film le montre très bien. Il faut savoir qu'il a été autorisé à rentrer en Russie qu'en 1987 pour revoir une ultime fois sa mère qui était mourante. Et il n'a été réhabilité là-bas qu'après sa mort. Il a eu un rôle, selon la Russie, très très ambigu. Il est considéré à la fois comme un traître en même temps. Ils sont bien obligés de reconnaître que ça a été un sacré ambassadeur de la culture russe.
Vraiment. Il est aussi question d'homosexualité dans le film.
Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un film qui parle d'une époque, d'une aspiration à la liberté. Nouriev, il n'a jamais fait officiellement son coming out. Donc, il n'a jamais dit en tant que tel qu'il était homosexuel. Mais on sait qu'il a eu des relations homosexuelles et des relations hétérosexuelles aussi. D'ailleurs, il en parlait librement. Il a aussi fait beaucoup pour les danseurs, le rôle des hommes dans les ballets. Et puis, il a dirigé la danse à l'Opéra de Paris de 83 à 89, rien que ça. Ce qui est aussi intéressant dans le film, qui est très classique, je dirais, sur la forme, c'est qu'il est ponctué de flashbacks qui racontent finalement d'où vient cet homme. Il est né à bord du Transsibérien. C'est rien, pas rien, dans une famille très pauvre qui crevait de faim. Ses parents n'ont même pas les moyens de lui payer des chaussures pour aller à l'école. C'est d'ailleurs assez ironique de noter qu'après sa mort, l'une de ses paires de chaussons de danse a été vendue 9 200 $ aux enchères. Wow. Vous voyez l'ironie. Ouais. Et puis son père ne voulait évidemment pas que son fils fasse de la danse, vous l'imaginez bien. Il a été obligé de se battre très jeune, on écoute encore Raphaël Personnas.
Il est né dans un wagon de train à la gare d'Irkoutsk. Moi, j'ai eu la chance de faire un film en Sibérie qui s'appelait « Dans les forêts de Sibérie ». Et je vois ce qu'est cette gare d'Irkoutsk. J'imagine que quand on est là, évidemment, on n'a pas envie d'y rester. Non pas que le Irkoutsk soit une ville moche, etc. Mais enfin, on peut imaginer la température, tout, etc. il faut une sacrée soif de vivre pour pouvoir se tirer de ces conditions-là. En fait, ça va très très bien avec ce personnage de Nourieff, qui est quand même d'une dureté avec lui-même, avec les autres. C'est pas un personnage sympathique, hein. Il a des côtés très très rudes. Et ça, Oleg Ivenko, il l'a bien rendu, malgré la gentillesse de ce garçon.
Voilà, Raphaël, le personnage, il parle d'Oleg Ivenko. C'est lui qui campe Nourieff dans le film.
Alors justement, au départ, ce garçon, il n'est pas acteur.
Ben non,
il
fallait trouver un danseur. Donc c'est un danseur professionnel, surtout pour que ce soit crédible. Alors c'est vrai qu'il fallait quelqu'un qui sache danser, on ne peut pas faire semblant. Ouais. Cet Oleg Ivenko, il n'avait jamais fait de cinéma jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien le dire, il est quand même assez épatant. Il faut dire qu'il a beaucoup travaillé pendant un an autour du film, autour du scénario. Donc c'est un film qui est basé sur une biographie célèbre, hein, de Julie Cavanna. C'est un biopic traditionnel avec une tension quand même qui monte au fil des minutes, qui est assez agréable. Mais le point essentiel, c'est de découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce danseur mort à 54 ans, dont on connaît le nom, mais pas forcément beaucoup plus. Et puis surtout, je le dis, restez bien jusqu'à la fin du générique, parce qu'il y a des images d'archives du vrai, entre guillemets, Nourieff. C'est tout simplement époustouflant.
Il vole,
exactement, sur
scène. Donc ce film est en salle depuis mercredi, donc du réalisateur Ralph Fiennes, c'est pas rien.
Non.
Merci beaucoup, Mathieu.
Voir. Avec plaisir.
À bientôt. Europe 1. Eux aussi volent, justement, mais dans un petit avion qui leur permet de survoler la Méditerranée pour essayer de repérer les frêles embarcations en détresse. Ce sont les pilotes volontaires, ils sont à Lampedusa et on va faire leur connaissance.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer jusqu'à 14h sur Europe 1 et maintenant, retour sur l'île italienne de Lampedusa.
Il y a un an exactement, les 27 pays de l'Union européenne trouvaient entre eux un accord. Objectif, externaliser la gestion des demandeurs d'asile et le contrôle des frontières maritimes au profit de pays tiers hors d'Europe. Depuis, en mer Méditerranée, les arrivées de réfugiés sur les côtes italiennes ont fortement chuté. Nous vous emmenons aujourd'hui sur l'île de Lampedusa, qui ces dernières années était le symbole de ces migrations périlleuses par la mer. Le ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, a encore durci les règles la semaine dernière en faisant adopter un décret-loi qui prévoit 10 à 50 000 euros d'amende pour les navires qui entreraient sans autorisation dans les eaux territoriales italiennes. Une manière de décourager les ONG qui viennent en aide aux migrants. Et malgré cela, des militants continuent à se battre au quotidien pour éviter que la Méditerranée ne soit un tombeau. Victor Delande en a rencontré certains à Lampedusa. Reportage.
Ce matin, Don Carmelo La Magra allait très tiré. Dans la nuit, le prêtre de Lampedusa a accueilli 55 réfugiés exténués après 3 jours passés en mer. De l'eau, des couvertures de survie, à chaque fois il aide ces migrants à leur arrivée au port avant qu'ils ne soient transférés au centre d'enregistrement.
Bien évidemment, notre présence ici ne résout pas tous leurs problèmes. C'est une petite étape de leur vie, mais c'est très important d'être là quand ces réfugiés arrivent. D'autant plus qu'on est la seule présence non militaire. Ça rend plus humain leur arrivée. Et ça nous rend aussi, nous, plus humains.
Depuis plusieurs mois, Don Carmelo est montré du doigt par certains habitants de Lampedusa. Il lui reproche de s'occuper plus des réfugiés que de ses fidèles et de leur avoir installé un Wi-Fi gratuit sur le parvis de l'église. Alberto Malardo connaît bien Don Carmelo. Ce bénévole de l'ONG Espoir Méditerranée s'est installé il y a 4 ans sur cette île située à l'extrême sud de l'Italie. Il recueille les témoignages des migrants qui arrivent au port, à chaque fois le même périple et les mêmes sévices subis en route.
Ce ne sont pas seulement les histoires qui sont les mêmes, mais aussi les signes de violence sur le corps. À plusieurs reprises, il nous est arrivé de voir les cicatrices provoquées par du plastique fondu, d'autres fois par des fils électriques. J'ai vu des gens arriver qui pesaient 35 kilos. Et désormais, ces tortures durent plus longtemps. Avant, les réfugiés restaient 3 à 5 mois dans ces centres de rétention en Libye. Maintenant, il y a des gens qui sont là-bas depuis plusieurs années.
Pourtant, certains migrants réussissent encore à s'échapper de ces sinistres camps et prennent la mer au risque de leur vie. C'est pour les sauver qu'à 200 km au sud de Lampedusa, José Benavente sillonne les côtes libyennes à bord de son Colibri, un petit avion de 3 places. Avec son copilote, il scrute la mer à 300 mètres d'altitude pour tenter de repérer ses embarcations à la dérive. Après 8 heures de vol ce jour-là, à 40 km au nord-est de Misrata, il aperçoit quelque chose.
J'ai quelque chose à environ 2 heures. Ok, il faut qu'on y retourne. Un bateau pneumatique. J'ai un visuel, c'est un bateau pneumatique bleu.
À bord, au moins 80 personnes, mais aucun autre navire dans la zone susceptible d'intervenir. Le pilote est donc obligé d'alerter les gardes-côtes libyens. Retour à la case départ pour ces réfugiés. José Benavente sait ce qui les attend dans ces centres de rétention. Ils seront probablement torturés, comme l'a dénoncé un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies en décembre dernier. Un dilemme terrible pour José, mais à choisir, il préfère que ces réfugiés soient sauvés de la noyade.
On l'espère quelque part, parce qu'on sait que, dû à la précarité de ces embarcations qui ne sont absolument pas prévues pour naviguer en haute mer, c'est une situation de détresse imminente. C'est une certitude, et malheureusement, dans les mois qui viennent de s'écouler, on a été à plusieurs reprises témoins de naufrages qui se sont produits sous nos yeux en l'espace de quelques minutes.
De retour au sol, José Benavente pense déjà à sa mission du lendemain. Il regarde les conditions météo, contacte les aéroports qui voudront bien l'accueillir pour refaire le plein de carburant. Il doit voler coûte que coûte.
On constate, comme depuis des mois, qu'il y ait des bateaux d'ONG ou pas présents en face des côtes libyennes. Les gens vont continuer et continuent encore comme aujourd'hui à tenter cette traversée absolument improbable. Parce que quand on veut fuir l'enfer, on est prêt presque à tout. On fait tout notre possible pour voler aussi souvent que possible. C'est bien entendu pour témoigner de ce drame qui continue à se jouer dans cette partie-là de la Méditerranée en face des côtes libyennes. Et évidemment, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.
Depuis leur premier vol l'année dernière, ces pilotes volontaires ont permis de sauver plus de 4500 réfugiés. Et même si José Benavente est bien conscient qu'il ne pourra pas repérer toutes les embarcations de fortune, avec son colibri, il tient absolument à faire sa part dans cette mer d'indifférence. À Lampedusa, Victor Dolande, Europe 1.
Voilà, magnifique musique d'un père et de son fils malien qui jouent ensemble. Toumani et Sidiki Diabaté l'ont appelé justement Lampedusa, cette musique. Et Victor Dolande est toujours en Italie, en ligne avec nous. Bonjour Victor.
Bonjour Sophie.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi les arrivées sur les côtes italiennes et grecques d'ailleurs ont chuté et dans quelle proportion ?
Cette baisse, elle est spectaculaire, hein, Sophie. En 2019, l'Italie a vu arriver un peu plus de 23 000 migrants contre presque 120 000 en 2017. Et cette tendance à la baisse, elle se confirme puisque depuis le début de cette année, à peine plus de 1000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes. La plupart du temps, ça se passe ici, hein, sur la petite île de Lampedusa. Et si ces embarcations de fortune arrivent beaucoup moins sur les côtes italiennes et dans le reste de l'Europe, c'est dû en grande partie aux accords qui ont été passés entre l'Union européenne et la Libye, après ce passé avec la Turquie. Ouais. À chaque fois, l'Europe aide, finance les pays comme la Libye, elle lui fournit des moyens, des bateaux, des soutiens aériens. Bref, tout est fait pour que cette immigration clandestine soit vraiment contenue au maximum. Je l'ai d'ailleurs vu hein, quand j'ai pu voler avec les bénévoles de l'association Pilotes Volontaires. Tout proche des côtes libyennes, il y avait un avion de l'armée italienne, donc de l'Europe, qui patrouillait pour repérer les bateaux pneumatiques des réfugiés pour pouvoir mieux guider les gardes-côtes libyens. Au passage, j'ai vu que ces gardes-côtes libyens vont de plus en plus loin. Ils n'hésitent plus à aller au-delà des eaux libyennes pour aller chercher les migrants.
Ces dernières années, Victor, l'Europe a aussi passé d'autres accords avec des pays d'Afrique qui ne sont pas directement ouverts sur la Méditerranée, comme la Libye ou la Tunisie.
Oui, c'est vrai. Hein. Au Soudan, par exemple, pays de transit des migrants vers la Libye, l'Union européenne, là aussi, achemine des fonds, du matériel et organise des formations pour contenir une fois de plus l'immigration et empêcher les migrants de rejoindre l'Europe par la mer.
Alors le paradoxe terrible, c'est que du coup, il y a moins de migrants qui prennent la mer, mais plus qui meurent en Méditerranée.
Et oui, parce qu'il y a toujours des réfugiés qui tentent cette folle traversée sur des embarcations qui ne sont absolument pas faites pour ça. Et lorsqu'on compare les chiffres, Sophie, qui ne sont que des estimations, en 2018, 2260 personnes ont perdu la vie dans les eaux méditerranéennes contre 3140 l'année précédente, sauf que il y a beaucoup moins de départs, donc proportionnellement, ceux qui prennent la mer ont bien plus de risques de mourir noyés. Et là aussi, ça s'explique par cette politique migratoire européenne. Il n'y a presque plus de bateaux sur place, sans pavillon. L'Aquarius a dû jeter l'éponge l'année dernière, rappelez-vous. Et ces cas se sont multipliés ces derniers mois. Aujourd'hui, dans la zone, le fameux rectangle de la mort au large des côtes libyennes et tunisiennes, il n'y a plus que le Sea-Watch 3 de l'ONG allemande, sauf qu'il est à l'arrêt, ou presque, depuis plus de 10 jours maintenant. Le Sea-Watch, avec 53 réfugiés à bord, ne peut accoster à Lampedusa. Matteo Salvini refuse catégoriquement de donner son accord. Résultat, Le bateau est bien dans la zone, mais il ne peut continuer à secourir des bateaux pneumatiques de réfugiés. Mmh. Quant aux navires de l'opération européenne Sophia, on s'en rappelle, ils ont été retirés en mars dernier.
Comment les habitants de Lampedusa se positionnent-ils par rapport à tout ça? Ça les a tellement touchés de près toutes ces dernières années.
Ouais. Oui, ici comme dans le reste de l'Italie, la montée en puissance du rejet des migrants, elle s'est banalisée. Le discours de Matteo Salvini séduit les habitants de l'île. La preuve, il a obtenu 46% des votes ici aux dernières élections européennes. Et d'ailleurs, ils ne veulent plus les insulaires parler des clandestins. Ils préfèrent se concentrer sur la saison touristique qui vient de démarrer. Après, il existe vraiment un paradoxe à Lampedusa. Oui, les habitants sont sensibles à ces discours anti-immigration. Il n'est pas rare d'entendre des mots très durs contre les réfugiés quand vous vous attablez à une terrasse d'un café. Mais quand il est question de sauvetage, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut sauver les gens en mer. Il ne faut pas oublier que c'est une île de pêcheurs et pour eux, impossible d'imaginer laisser quelqu'un se noyer devant eux.
Au niveau européen, en tout cas, on a clairement senti ces derniers mois que la frange populiste des dirigeants avait pris la main sur ce dossier migratoire. Les Salvini en Italie, Orban en Hongrie.
Oui, on pense aussi à l'Autriche, à la Pologne. Ouais. La politique menée par l'Europe sur ces questions migratoires, elle est très claire. C'est de repousser le plus possible les migrants hors des frontières de l'Europe. Et cette position très ferme, en fait, est affirmée, scandée par les partis extrémistes qui ont le vent en poupe, encore plus avec leurs résultats aux dernières élections européennes. Et on peut se demander si cette ligne anti-immigration, criée haut et fort par ces gouvernements populistes, n'arrange pas finalement les pays gouvernés par des formations plus modérées, comme la France ou l'Allemagne.
Merci beaucoup Victor Delande d'avoir fait le point avec nous sur cette petite île de Lampedusa qui a été le symbole vraiment de la migration vers l'Europe toutes ces dernières années.
Oui, tout à fait.
Et qui est le symbole aussi des changements qui interviennent aujourd'hui dans la politique migratoire de l'Europe. À très bientôt.
À très bientôt, Sophie.
Rentrez bien et on va se quitter sur ces magnifiques notes de musique malienne de Toumani et Sidiki Diabaté. Pour le plaisir, on s'en remet un petit peu. De l'un des plus grands joueurs de kora, Toumani Diabaté, qui joue avec son fils Sidiki. Ils ont appelé ce morceau Lampedusa.
Europe 1.
On file au Japon dans un instant où l'on reparle du plus grand scandale sanitaire et éthique de l'histoire du pays, la stérilisation forcée de milliers de personnes handicapées. Les victimes osent enfin parler et les procès se multiplient.
Europe 1. Les carnets du monde.
Il est 13h42, direction le Japon, à présent avec vous Sophie Larmoyer et avec un jugement qui provoque un véritable tollé.
Les handicapés japonais ne décolèrent pas depuis qu'un jugement a été rendu dernièrement dans ce qu'on a appelé le procès du siècle, le tout premier procès sur le plus grand scandale éthique et sanitaire de l'histoire de ce pays, celui des stérilisations et avortements forcés de personnes handicapées. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
On vous retrouve depuis Tokyo, vous nous racontez la société japonaise. Avant de parler ensemble de ce grand procès, on va revenir un petit peu sur les faits. Au siècle dernier, malheureusement, de nombreux pays ont effectivement stérilisé les personnes handicapées. L'Allemagne nazie, évidemment, mais aussi la Suède, la Chine, d'autres pays encore. En quoi le Japon est-il particulier ?
Eh bien, d'abord, les handicapés y ont été stérilisés de force pendant très longtemps, près de 50 ans, jusque dans les années 90. Et l'État japonais a assumé cette politique de manière totalement décomplexée. La loi dite de protection eugénique, qui a permis ces stérilisations et IVG forcées, avait pour objectif explicite de bâtir une société radieuse, comme les manuels scolaires disaient à l'époque. Une société peuplée de citoyens parfaits. Et les handicapés, eux, pendant le débat parlementaire de cette loi, ont été traités, je cite, de progéniture de rang inférieur. d'être à l'existence misérable, congénitalement inapte à la vie en société et qui attente au bien vivre ensemble. Fin de citation.
Des termes d'une grande violence, évidemment. Cette politique a été décidée au sortir de la guerre, en fait ?
Oui, cette loi eugéniste est entrée en vigueur en 1948, au moment où le Japon commence tout doucement à se relever de la Seconde Guerre mondiale qu'il avait dévastée. La priorité nationale, c'est la reconstruction. Donc, aux yeux du gouvernement, ce dont le pays a besoin, ce sont des citoyens vigoureux, pas des bouches inutiles à nourrir, comme ils considéraient les handicapés.
Est-ce qu'on sait combien ont été stérilisés ?
25 000 environ, dont 8 000 de leur plein gré, dit le gouvernement. Mais ça, c'est de la propagande, car à l'époque, les handicapés hébergés en institution, s'ils refusaient d'être stérilisés, eh bien, ils en étaient renvoyés. Donc, beaucoup de parents qui ne pouvaient pas reprendre leurs enfants chez eux se sont sentis contraints de donner leur consentement à leur stérilisation.
Alors, parmi toutes ces victimes, deux femmes stérilisées de force quand elles étaient adolescentes, au début des années 60, ont été les premières à traîner l'État en justice pour demander réparation. Mais elles viennent d'être déboutées et c'est ce jugement qui fait scandale aujourd'hui, Bernard.
Oui, elles ont été déboutées car selon le droit nippon, elles auraient dû demander réparation dans les 20 ans. Or, ces stérilisations ont eu lieu il y a 50 ans. Pour le tribunal, il y a prescription.
Justement, pourquoi ce procès arrive-t-il si tard ?
Eh bien, parce que pour beaucoup de victimes, cette stérilité a été un secret lourd à porter. Elles n'en ont jamais parlé à personne, parfois même pas à leur propre conjoint, quand elles sont parvenues à se marier. Donc pour elles, témoigner publiquement, c'était difficile. Mais c'est ce qu'a choisi de faire Chisuko Sasaki, infirme moteur cérébral et stérilisé de force à l'âge de 20 ans. C'était en 1968.
Quand j'ai eu mes règles, on m'a dit qu'il n'était pas question de prendre le moindre risque que je tombe enceinte. On a donc décidé de me stériliser en m'administrant de fortes doses de rayons chaque jour pendant plus d'une semaine. C'était atroce. Ça m'a notamment donné des nausées épouvantables. Je me sentais extrêmement mal.
Beaucoup de handicapés ont, comme cette dame, été stérilisés non par intervention chirurgicale, mais par irradiation au rayon X ou au rayon gamma. C'est encore une particularité du Japon. Un tel traitement fait courir des risques aux patients. Des risques d'impuissance sexuelle, de lésions internes, de tumeurs, etc. Ben, l'État le savait très bien, mais il a donné son feu vert. Il a jugé que ces irradiations donneraient des enseignements intéressants pour la recherche médicale.
Ouais, ça signifie en clair que ces personnes handicapées ont servi de cobayes humains dans le cadre d'une expérimentation médicale à grande échelle, en quelque sorte.
Voilà. Michiko Osanai, elle, y a échappé. C'est une infirme moteur cérébral âgée aujourd'hui de 66 ans.
Au Japon, à l'époque, la prise en charge des handicapés était quasi inexistante. Maman se faisait donc beaucoup de soucis pour moi. Un jour, et je n'oublierai jamais ses paroles, elle m'a dit « Écoute, ma petite Michiko, quand tu auras tes règles, personne ne pourra s'occuper de toi à l'école. Ce serait donc mieux de te stériliser. » Moi, j'étais dévastée parce que mon grand rêve, c'était de tomber amoureuse et d'avoir des enfants, alors que je savais qu'il n'y avait qu'une chance sur mille que ce rêve se réalise. Il n'empêche, cette chance, je tenais à la garder.
Et figurez-vous, Sophie, que son rêve, Michiko Osanai, a fini par le réaliser. Car le jour prévu de l'opération, dans le taxi qui les conduisait à la clinique, elle était si triste que sa mère a fini par se raviser. Elle a fait faire demi-tour au taxi, elles ne sont jamais allées au rendez-vous. Et plus tard, Michiko s'est mariée, puis elle a mis au monde un fils qui n'est pas du tout handicapé. Il est âgé de 32 ans aujourd'hui et il prend bien soin d'elle.
Là, Bernard, vous nous parlez de femmes, mais beaucoup d'hommes aussi ont été stérilisés dans le cadre de cette loi.
Oui, je vous propose d'écouter l'un d'eux. Il s'appelle Kikuo Kojima et a aujourd'hui 77 ans.
À mes 19 ans, on a décrété que j'étais schizophrène et que donc je devais être stérilisé pour ne pas risquer de transmettre ma maladie à mes enfants si j'en avais. Je suis tombé des nues. L'idée que je ne pourrais jamais avoir d'enfants me rendait très triste. Je me demandais vraiment ce qui m'arrivait. D'accord, j'ai eu une jeunesse un peu difficile, j'ai fait les 400 coups, mais je n'ai jamais été un malade mental. En plus, à l'époque, personne ne m'a examiné, je n'ai pas vu un seul psychiatre. Un docteur quelconque, sans même m'avoir vu, a diagnostiqué que j'étais schizophrène et qu'il fallait donc me stériliser, c'était comme ça. L'opération a été un calvaire. On ne m'a fait qu'une petite anesthésie. J'ai souffert le martyr. Trois jours après, les douleurs étaient toujours insupportables. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, de temps en temps, j'ai mal au ventre. En quittant l'hôpital, j'ai aperçu des enfants qui sortaient de Maruyama, le grand zoo de la ville de Sapporo. Et c'est là que j'ai compris que je ne pourrais jamais y aller avec mes propres enfants. J'étais anéanti. Ensuite, j'ai été chauffeur de taxi pendant 39 ans. À chaque fois que des clients me demandaient de les emmener au zoo avec leur môme, ça faisait mal.
Un témoignage terrible. Mais en plus, Bernard, quand on entend cet homme, en fait, il n'est pas handicapé. Comment il a pu entrer dans le champ de la loi ?
Parce que cet eugénisme a été érigé en politique d'État. Donc, dans tout le pays, les écoles, les hôpitaux et les centres d'aide sociale ont été sommés de soutenir publiquement la loi. Ce qu'explique Yoko Matsubara, professeur à l'université Ritsumeikan à Kyoto.
Même les médecins qui étaient opposés aux stérilisations subissaient de telles pressions qu'ils se sentaient obligés de suivre la consigne. Et comme d'un point de vue médical, on peut difficilement déterminer avec certitude si une personne atteinte de tel ou tel handicap risque de le transmettre ou pas à ses enfants, ben on en est arrivé à appliquer le principe de précaution pour éviter le maximum de naissances de progéniture de rang inférieur, entre guillemets. On a sans cesse élargi le champ d'application de la loi.
On s'est mis à stériliser des gens qui avaient un comportement un peu en marge et donc qui, jetant, troublaient, je cite, l'ordre public et l'harmonie sociale. Les enfants qui étaient en échec scolaire aussi, alors qu'ils n'étaient pas en échec pour cause de retard mental, mais simplement parce qu'ils venaient d'un milieu défavorisé. On a stérilisé aussi des personnes qui n'étaient plus en âge d'avoir des enfants, des sexagénaires et au-delà. Les aveugles et sourds-muets également ont fini par tomber sous le coup de la loi. Il y a même une catégorie de personnes à qui on a infligé la double peine, les lépreux. Ils ont été stérilisés de force et en plus enfermés dans des léproseries pour éviter de prétendus contagions.
Et il a fallu des décennies pour que l'État fasse solennellement acte de repentance.
Oui, parce qu'il s'est toujours abrité derrière le fait que ces stérilisations s'étaient effectuées dans le cadre d'une loi qui avait été votée en bonne et due forme par le Parlement et à l'unanimité en prime. Pour que cette repentance survienne, en fait, il a fallu attendre le mois dernier. Ça s'est fait par le biais d'une loi qui accorde une indemnisation à chaque victime, l'équivalent de 25 000 euros environ, et qui fait part des regrets sincères du pays pour les souffrances qui leur ont été infligées.
7 décennies après le début des stérilisations, seulement une loi écrite, même pas un discours un peu solennel ?
Non, pas le moindre discours officiel n'a été prononcé. En plus, ces 25 000 euros d'indemnisation, c'est 10 fois moins que ce que les victimes réclament en justice. Donc les personnes stérilisées ne vont rien lâcher, elles ne comptent pas du tout retirer leur plainte. Ce qui explique que malgré cette jurisprudence controversée, une dizaine de procès similaires vont se tenir dans les mois à venir.
Très intéressant, vraiment. Merci beaucoup Bernard pour ce rappel d'une page décidément bien sombre de l'histoire du Japon et qui a ressurgi avec ce verdict qui n'a pas du tout été accepté par les victimes et on le comprend bien. Je vous dis à très bientôt dans les carnets.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Europe 1.
À suivre, un peu de poésie grâce à Joseph qui nous rejoint très inspiré par le solstice d'été. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
13h52, que diriez-vous d'un petit voyage en Autistan, Sophie Larmoyer? Joseph Jovanek est notre guide dans cette contrée très spéciale.
Il est philosophe, notre ami Joseph, et autiste Asperger, et c'est dans ses nombreux voyages qu'il puise les récits qu'il partage avec nous chaque dimanche. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Et vous voilà très inspiré aujourd'hui par le solstice d'été.
Eh oui Sophie, ces jours-ci c'est la nature elle-même qui nous donne sa journée spéciale. Mmh. Techniquement le solstice d'été était avant-hier vendredi, mais en fait il dure tout le week-end. Mmh. Car la trajectoire du soleil paraît immobile, hein, d'où le nom solstatum, solstice. Mmh. Pour moi depuis l'enfance c'est un jour magique. Je regardais jusqu'où le point du coucher du soleil allait être infléchi vers l'ouest et m'émerveillais de la longueur du jour. Mais quand j'ai commencé à voyager, j'ai compris que je n'était pas le seul dans ce cas. La magie du jour le plus long est quelque chose de très profond dans l'histoire, dans l'aventure humaine.
Alors, où nous emmenez-vous pour partager ce jour le plus long ?
Et Sophie, mon premier choc en la matière avait eu lieu lors d'un séjour linguistique en Europe orientale. Un beau jour, une camarade de classe ukrainienne avait amené en cours une grande bouteille d'alcool fort, une sorte de flasque de grande taille. Alors, surprise générale, pourquoi cela? Pourquoi aujourd'hui? Et la camarade de classe, elle, était aussi étonnée qu'on lui pose toutes ces questions. Pour elle, la réponse était évidente. Elle se préparait à la fête, à une soirée. C'était le jour d'Ivan Kupala, ou sa nuit plutôt. C'est une fête étrange, c'est propre à l'Europe orientale, dont le nom fait allusion à la fête de Saint-Jean-Baptiste le 24 juin en Europe occidentale. Et c'est l'un des restes de tout un lait culturel indo-européen.
Alors en quoi consiste cette fête? C'est comme les feux de la Saint-Jean?
Oui Sophie, sauf que les feux de la Saint-Jean ne sont qu'une composante. En Europe orientale, beaucoup plus c'est préservé. Par exemple, il y a tout un volet un peu tabou qui s'est préservé en Europe orientale. Ce jour-là, les rôles de séduction s'inversent. Ce sont les jeunes filles qui draguent les hommes. La tradition considère d'ailleurs, comme je cite « enfant du ciel », fin de la citation, les bébés nés 9 mois plus tard. C'est au demeurant la raison secrète pour laquelle j'ai toujours évité d'aller en Ukraine en juin juillet. Il vaut mieux prévoir une petite marge de manœuvre parce qu'avec les décalages du calendrier julien orthodoxe, on ne sait jamais.
En tout cas, quand vous me parlez du jour le plus long, moi je pense d'abord aux pays nordiques, évidemment.
En effet, Sophie, moi aussi, parce que c'est dans ces pays-là que le solstice d'été est le plus visible. À Saint-Pétersbourg, il y a les Bielie Nochi, ce sont les nuits blanches où tous les bouquinistes sortent leurs livres qu'on peut lire toute la nuit dehors.
Joli.
Et en Estonie, ce jour fait partie de la mythologie nationale car le solstice coïncide avec le jour de la victoire, le très vénéré Veidupuha. En effet, ce jour-là, le 23 juin 1919, dans un effort surhumain, la minuscule armée estonienne a réussi l'exploit de défaire l'armée rouge et donc d'assurer l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Union soviétique. Et beaucoup croient que le solstice d'été a un lien mystérieux avec l'âme du peuple estonien.
Du coup, c'est la grosse fête ce jour-là, on danse toute la nuit, enfin sous le soleil.
Oh non, les Estoniens sont proches de l'idéal autistique. Ils recherchent la solitude de façon encore plus forte que d'habitude ces temps-ci.
Ok, vous avez vécu le solstice dans l'un de ces pays du Nord ?
Oui, je n'oublierai jamais l'éternel jour de la haute Arctique, par exemple à Svalbard, donc cet archipel près du pôle, où le soleil ne fait que tournoyer dans le ciel et ôte le stress de la succession des jours et des nuits. Pour moi, ces périodes resteront synonymes des grands voyages, de la vie véritable. Les Estoniens le diraient d'un air plus mystérieux que jamais. Suvel silmad, talvel halmbat. Donc, l'été a des yeux, l'hiver a des dents. Les dents des bêtes que l'on voit durant les longues nuits dans les forêts en hiver. Et à l'inverse, l'été, avec sa lumière, permet de contempler les beautés de la nature, de la vie.
Merci beaucoup, Joseph, pour cette petite touche poétique pour terminer. À dimanche prochain.
À très bientôt.
Europe 1.
Merci de nous avoir accompagnés. C'est l'heure de refermer les carnets du monde que vous pouvez retrouver en podcast, bien sûr, comme toujours. Sophie Malgui a signé la réalisation de cette émission. Florence Gimalak m'a aidé à la préparer. Merci à elle. Avec les reporters de la rédaction d'Europe 1, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 13h tout pile pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien surtout.